Chapitre 15. Utiliser un caillou. La chamane Naef à ses côtés, Ninevé se hâtait dans les rues pavées de Théar. Au nord, très loin, la tempête restait présente, et même de plus en plus menaçante. Rien de naturel là-dedans, et elle dérivait vers le sud. L'âne était là-bas, sous ce cauchemar obscur.
« Lumière, protège-le. »«
Vous dites, Ninevé Sedai ?»
demanda Naef.
Rien du tout.
Ninevé commençait à s'habituer à la présence de l'homme en veste noire, et quand elle le regardait, aucun frisson glacé ne courait le long de sa colonne vertébrale. Voilà qui aurait été stupide. Avec sa contribution, le Saïdin avait été purifié. Aucune raison de se sentir mal à l'aise. Même si les achamans, de temps en temps, regardaient dans le vide et marmonnaient entre leurs dents. Comme Naef en ce moment, qui sondait les ombres projetées par un bâtiment proche, une main sur son épée.
« Prudence, Ninevé Sedai, » dit-il. « Un autre Myrdral nous suit. »«
Tu es sûr, Naef ?»
Le grand type au visage carré acquiesça. Pour les tissages, il était très doué, surtout avec l'air, une rareté chez un homme. Et contrairement à certains de ses collègues, il se montrait très poli avec les Aes Sedai.
Oui, j'en suis sûr. J'ignore pourquoi je peux les voir alors que les autres en sont incapables. Je dois avoir un don spécial. Ce sont des éclaireurs cachés dans les ombres, je crois. Ils n'attaquent pas parce qu'ils savent que je suis en mesure de les repérer.
Naef patrouillait la nuit dans la pierre de Théar, en quête des Myrdral qu'il était le seul à voir. Si sa folie ne s'aggravait pas, certaines vieilles blessures ne guériraient jamais, et il garderait toujours cette séquelle. Le pauvre. Au moins, sa démence était moins grave que celle de certains autres. Ninevé regarda devant elle et descendit la large rue pavée. Des deux côtés, les bâtiments étaient disposés au hasard, à la mode de Théar. Une imposante demeure flanquée de deux tours et d'une porte en bronze digne d'un portail, voisinée avec une auberge de taille très modeste. En face, des maisons avec des portes et des fenêtres ornées de fer forgé s'alignaient proprement. N'était la boucherie tout à fait incongrue qui se nichait au milieu de la rangée. Ninevé et Naef se dirigeaient vers le quartier appelé le Tout Estival, qui jouxtait la partie orientale du mur d'enceinte. Pas le coin le plus chic de Théar, mais un lieu prospère, pour le moins. À Théar, il n'existait que deux classes sociales, la noblesse et le peuple. Pour les nobles, la populace, comme il disait, était composée de créatures à la fois exotiques et inférieures. Ninevé et Naef croisèrent quelques-uns de ces êtres méprisés. Des hommes en pantalon ample tenus à la taille par une ceinture de couleur et attachés aux chevilles. Des femmes en robe à col montant, un tablier clair protégeant le devant. Les chapeaux de paille plat abondaient, presque à égalité avec les bonnets inclinés d'un côté. Pas mal de gens portaient sur une épaule des sabots attachés par une cordelette qu'ils enfileraient une fois de retour dans l'assommoir, le terrible quartier du port. Les gens que croisait Ninevé semblaient inquiets, certains jetant sans cesse des coups d'œil par-dessus leur épaule. Dans la direction d'où ils venaient, une bulle maléfique avait frappé la cité. Si la lumière le voulait bien, il y aurait peu de blessés, parce que Aes Sedai n'avait pas beaucoup de temps devant elle. Au plus vite, il y faudrait gagner la Tour Blanche. Obéir à Egwene l'horripilait, mais elle boirait la coupe jusqu'à la lie et s'en irait dès le retour de Rand, partie ce matin pour on ne savait où. Quel type insupportable! Au moins, il avait emmené des promises. D'après ce qu'on disait, il était allé chercher quelque chose. Ninevé accéléra le rythme et Naef la suivit, jusqu'à ce qu'il passe quasiment au pas de course. Un portail aurait été plus rapide, mais beaucoup moins sûr, car ils auraient risqué de blesser ou de tuer de braves gens.
« Nous sommes trop dépendants des portails. Du coup, nos jambes ne nous semblent plus assez bonnes. »
Le duo s'engagea dans une rue où étaient postés plusieurs défenseurs. En veste noire à manches bouffantes noires et or, leur plastron argenté et étincelant, ces hommes semblaient très nerveux. Pour laisser passer Ninevé et Naef, ils s'écartèrent promptement. Bien que visiblement soulagés de voir arriver une Aes Sedai, ils continuèrent à serrer leurs piques, à s'en faire blanchir les phalanges. Derrière eux, la ville semblait un peu plus... terne que d'habitude. Délavée, presque. Les pavés paraissaient d'une nuance de gris plus claire, et les murs des bâtiments un peu moins bruns qu'ils auraient dû l'être.
« Vous avez des hommes qui cherchent les blessés dans la zone sinistrée ?»
demanda Ninevé. Un des défenseurs secoua la tête.
« Nous empêchons quiconque d'entrer, Dame Aes Sedai. C'est dangereux. »
De nombreux théariens n'avaient pas encore l'habitude de témoigner du respect aux sœurs. Jusque très récemment, il était interdit de canaliser en ville.
Envoie une équipe fouiller les lieux,
ordonna Ninevé.
Si tes précautions coûtent des vies, le Seigneur Dragon le prendra très mal. Commence par le périmètre de la zone. Et si tes gars trouvent quelqu'un que je peux aider, il suffira de venir me chercher.
Les défenseurs se mirent en branle. Ninevé consulta Naef du regard. La chamane ayant acquiescé, elle avança à l'intérieur du site affecté par la bulle maléfique. Dès que ses pieds touchèrent les pavés, ceux-ci tombèrent en poussière, et l'épouse de l'âne s'enfonça dans la terre jusqu'aux chevilles. Elle baissa les yeux, laissant glacer, mais continua quand même. À chaque pas, le phénomène se reproduisait. En laissant une piste poudreuse derrière eux, l'Aes Sedai et la chamane se dirigèrent vers un bâtiment proche, une auberge dotée de jolis balcons. Du fer forgé embellissait les fenêtres et l'entrée. Voyant que la porte était ouverte, Ninevé voulut grimper sur le perron. Mais la première marche du petit escalier se désintégra aussi. À côté d'elle, Naef se pencha et fit couler l'étrange poussière entre ses doigts.
« C'est la poudre la plus fine que j'ai jamais touchée, » dit-il.
Dans la rue bizarrement silencieuse, l'air était d'une fraîcheur surnaturelle. Avec une profonde inspiration, Ninevé se hissa sur le perron, puis entra dans l'auberge. Le plancher se désintégrant sous ses pieds, elle dut sauter et atterrit enfin sur un sol stable. Les lampes éteintes, il faisait très sombre dans la salle commune. Aux tables, des gens étaient assis, pétrifiés au milieu d'un geste. Pour l'essentiel, il s'agissait de nobles aux superbes atours, les hommes arborant la barbe pointue et huilée de rigueur. L'un d'eux, perché sur un tabouret devant une table haute, portait une chope de bière à sa bouche. Il ne bougeait plus, les lèvres entrouvertes pour boire. Même si peu de choses semblaient surprendre ou troubler les achamanes, Naef faisait grise mine. Alors qu'il se préparait à avancer, Ninevé le retint par le bras. Quand il la regarda, perplexe, elle tendit une main vers ses pieds. Devant lui, à peine visible sous le plancher encore miraculeusement intact, le sol s'était écroulé. Un pas de plus, et Naef aurait fini dans la cave de l'établissement.
« Lumière !»
murmura Ninevé en reculant. Naef s'accroupit et tapota une planche qui tomba aussitôt en poussière. Ninevé tissa un mélange d'esprit, d'air et d'eau pour sonder le noble figé alors qu'il allait boire. En principe, elle devait toucher un sujet pour bien le sonder. Mais là, elle hésitait. Sans contact, elle glanerait des informations. Mais il serait presque impossible de guérir. Mais guérir quoi, au juste? Chez cet homme, il n'y avait plus aucun signe de vie. Pas même un indice qu'il avait été vivant un jour. Son corps, en réalité, n'était plus composé de chair. L'estomac retourné, Ninevé sonda d'autres personnes. La servante qui apportait un plateau à trois marchands andoriens, le tavernier bedonnant qui devait avoir eu du mal à circuler entre les tables serrées les unes contre les autres, la dame superbement vêtue, occupée à lire un petit ouvrage quand la bulle avait frappé. Pas le moindre signe de vie chez ces gens. Ce n'étaient même pas des cadavres, mais des coquilles vides. Les doigts tremblants, Ninevé tendit le bras et frôla l'épaule du buveur pétrifié. Aussitôt, il se désintégra. Mais son tabouret et le plancher qui le soutenaient restèrent entiers.
« Ici, » dit Ninevé, « il n'y a personne à sauver. »«
Les pauvres gens, » souffla Naef. « Que la lumière abrite leur âme. »
Pour les nobles de Théar, Ninevé peinait à éprouver de la compassion. Parmi tous les gens qu'elle avait connus, ils étaient de loin les plus arrogants. Mais personne ne méritait un sort pareil. Et un grand nombre de roturiers avaient été eux aussi piégés par cette bulle. Tandis que Naef et elle sortaient de l'auberge, Ninevé tira furieusement sur sa natte. Elle détestait se sentir impuissante. Comme avec le pauvre garde à l'origine de l'incendie devant le manoir d'Arad-Doman. Ou comme avec les malades terrassés par des affections inconnues. Ou encore les coquilles vides d'aujourd'hui. À quoi bon apprendre à guérir si ça ne servait pas à aider les autres? À présent, elle allait devoir partir pour la Tour Blanche, comme si elle s'enfuyait. Elle se tourna vers Naef.
« Vent, »
dit-elle.
« Pardon, Ninevé Sedai. »
« Fais souffler du vent sur le bâtiment, Naef. Je veux voir ce qui arrive. »
La chamane obéit, ses tissages invisibles projetant quelques bourrasques. Aussitôt, l'auberge entière se désintégra, et des grains blancs comme ceux des pissenlits volèrent dans les airs.
« Quelle est l'étendue de cette bulle déjà ?»
demanda Ninevé.
« Selon le défenseur, deux rues de large dans toutes les directions. »«
Il nous faut plus de vent, »
dit Ninevé en commençant à canaliser.
« Génère une petite tempête, Naef. S'il reste des survivants, c'est comme ça que nous les trouverons.
La chamane acquiesça. Ensemble, Nineveh et lui avancèrent en poussant devant eux un vent surnaturel. Sous ses assauts, des bâtiments s'écroulèrent puis partirent en poussière. Plus doué pour cet exercice que Nineveh, Naef était cependant moins puissant dans le pouvoir qu'elle. Quoi qu'il en soit, en unissant leurs forces, ils détruisirent tout ce qui devait l'être. Un travail épuisant, mais qu'il fallait faire. Contre toute raison, Nineveh espérait trouver quelqu'un à aider. Mais les bâtiments s'effondraient devant elle, la poussière emportée par les tourbillons du vent. Avec l'aide de Naef, comme une servante qui balait le sol, l'Aes Sedai poussait devant elle la tempête de sable surnaturelle. Dans les rues, ils virent des gens pétrifiés. Des animaux aussi, comme ces bœufs qui tiraient un chariot, et, plus déchirant, des enfants en train de jouer dans une allée. Poussière que tout cela, et pas un seul survivant. Après des heures, quand Naef et elle eurent fini de désintégrer la zone souillée de la cité, Nineveh regarda tristement la colonne de poussière qui ne retombait pas, maintenue en place par le petit cyclone que la chamane avait tissé. Une idée lui traversant l'esprit, l'épouse de l'âne projeta une langue de feu sur ce vortex. Aussitôt, la poussière s'embrasa comme un tas de feuilles mortes séchées. Devant ces flammes rugissantes, Naef et elle reculèrent. Et ce ne fut qu'un feu de paille qui ne laissa pas de cendre derrière lui.
Si nous n'avions pas compacté ce matériau, une simple étincelle aurait pu déclencher un incendie géant.
Lorsque Naef dissipa ses bourrasques, Nineveh et lui se retrouvèrent au centre d'un grand terrain vague circulaire, où une série de trous marquait l'emplacement des caves. À la lisière de cette zone, des bâtiments étaient coupés en deux, certaines pièces ouvertes aux quatre vents. D'autres étaient carrément effondrées. Le spectacle se révélait hallucinant, comme si deux orbites vides remplaçaient désormais les yeux sur le visage de Théar. Par petits groupes, des défenseurs se tenaient sur le périmètre de la zone. Avec Naef, Nineveh alla rejoindre le plus important.
« Vous n'avez trouvé personne ?»
demanda-t-elle.
« Non, Dame Aes Sedai, » répondit un des hommes. « Enfin, il y avait bien des gens, mais tous morts. »
Un type corpulent, sanglé dans un uniforme trop petit, renchérit.
« Apparemment, tous ceux qui sont entrés dans ce secteur ont péri. À quelques-uns, il manquait un pied ou une partie d'un bras. Mais ils étaient morts quand même. »
Visiblement secoué, le défenseur avait la voix tremblante. Nineveh ferma les yeux. Le monde entier se délitait, et elle ne pouvait rien y faire. De quoi se sentir malade et furieuse.
« Ce sont peut-être eux les coupables, »
murmura Naef. Rouvrant les yeux, Nineveh vit que la chamane désignait un bâtiment intact, non loin de là.
« Les blafards. Nineveh Sedai, il y en a trois là-bas, et ils nous observent.
Naef. »
Nineveh s'interrompit, frustré. Lui dire que ces blafards n'étaient pas réels n'aurait servi à rien.
Il faut que je fasse quelque chose. Que j'aide quelqu'un.
Naef, ne bouge plus.
Elle prit le bras de la chamane et entreprit de le sonder. Il la regarda, surpris, mais n'émit pas d'objection. La folie était visible, semblable à un faisceau de veines noires qui envahissait l'esprit de Naef. Comme un cœur miniature, cette démence battait lentement. Récemment, Nineveh avait découvert la même infestation chez d'autres achamanes. En matière de sonde, elle s'améliorait, ses tissages devenant de plus en plus pointus, et elle repérait des éléments qui lui étaient jusque-là cachés. Hélas, elle n'avait aucune idée d'un protocole susceptible de réparer les dégâts.
« Tout devrait pouvoir être guéri, »
se dit-elle,
« à part la mort. »
Se concentrant, elle tissa en même temps les cinq pouvoirs, puis explora prudemment le faisceau noir. Son expérience avec le pauvre serviteur de Grindal qu'elle avait libéré d'une coercition restait vivace dans son esprit. Naef était mieux fou que doté d'un cerveau irrémédiablement endommagé. Bizarrement, le faisceau noir ressemblait beaucoup à une coercition. Était-ce ça l'action de la souillure? Imposée aux hommes capables de canaliser une coercition générée par le ténébreux en personne? Toujours avec mille précautions, Nineveh tissa un contreflux, une copie inversée de la folie, puis en enveloppa l'esprit de Naef. Son réseau se volatilisa sans avoir eu le moindre effet. L'ancienne sage-dame serra les dents. Cette manœuvre aurait dû fonctionner. Mais comme ça arrivait si souvent désormais, elle s'était soldée par un fiasco.
« Non, je ne peux pas baisser si vite les bras !»
Elle sonda plus profondément l'esprit de la chamane. La masse sombre était hérissée d'épines, qui s'enfonçait dans son cerveau. Ignorant les gens qui se pressaient autour d'eux, Ninevé étudia ses pointes, puis très doucement, elle recourut à des tissages d'esprit pour en retirer une. Après une forte résistance, l'intruse céda. Sans attendre, Ninevé cautérisa l'endroit où elle avait blessé les tissus cérébraux de Naef. Tout de suite après, le cerveau sembla plus sain, comme s'il se régénérait. Une à une, l'ancienne sage-dame retira toutes les intruses. En maintenant fermement ce tissage, sinon les épines noires se seraient de nouveau enfoncées dans les tissus. De la sueur ruissela sur le front de la sœur. Déjà fatiguée après le nettoyage de la cité, elle n'avait plus d'énergie à consacrer aux petits trucs qui lui permettaient de ne pas sentir la chaleur. Et Théar était une fournaise. Elle insista, préparant un autre contreflux. Une fois toutes les épines retirées, elle le projeta sur le faisceau noir, qui frissonna et trembla comme une créature vivante, avant de disparaître. Vidée de ses forces, Ninevé tituba en arrière, puis elle regarda Naef, qui venait de porter une main à sa tête.
« Lumière, l'ai-je blessé? Dans quoi me suis-je embarqué? Je l'ai peut-être... »«
Ils sont partis, » annonça Naef. « Les blafards, je veux dire. Je ne les vois plus. »
Il s'ébroua, très surpris.
« Pourquoi se serait-il caché dans les ombres pour commencer? Si j'étais capable de les voir, ils me tueraient et... »
Il regarda Ninevé, les yeux ronds.
« Qu'avez-vous fait ?»«
Je crois... Eh bien, je pense t'avoir libéré de ta folie. »
En tout cas, elle l'avait modifié. Son intervention était très éloignée d'une guérison classique. D'ailleurs, elle n'avait pas recouru à des tissages spécifiques à la thérapie. Mais à première vue, c'était un succès. L'air stupéfié, Naef eut un grand sourire. Prenant entre les siennes une main de Ninevé, il s'agenouilla, des larmes aux yeux.
« Pendant des mois, j'ai eu le sentiment d'être épié. Comme si je risquais d'être tué à chaque fois que je tournais le dos à des ombres. À présent, je... Merci. Il faut que je parle à Nelaver.
Je te salue bien bas dans ce cas, »
dit Ninevé. À la vitesse du vent, Naef fila vers la pierre, où il entendait trouver son Aes Sedai.
Je ne dois pas me laisser aller à penser que rien de ce que je fais n'a d'importance. C'est ce que veut le Ténébreux.
Alors qu'elle regardait Naef s'éloigner, Ninevé remarqua que les nuages se dissipaient. Rand était revenu. Tandis que des ouvriers déblayaient les restes des bâtiments partiellement désintégrés, Ninevé dut improviser un petit discours à l'intention des Théariens affolés qui se massaient au bord de la zone sinistrée. Voulant coûte que coûte éviter une panique, elle dit et répéta qu'il n'y avait plus de danger. Puis elle demanda à rencontrer les familles qui avaient perdu quelqu'un. Quand Rand la trouva, elle conversait avec une mince femme au visage dévasté. Appartenant à la populace, la malheureuse portait un chapeau de paille, une robe à col montant et trois tabliers superposés. Son mari travaillait dans l'auberge que Ninevé venait de raser. La veuve fixait désespérément le trou où se trouvait la cave. Après un moment, l'épouse de l'âne remarqua le dragon. Les bras dans le dos, il l'observait avec intérêt. Soma et Kanara, deux promises, veillaient sur lui. Ninevé en termina avec la théarienne. Mais elle n'était pas prête d'oublier ses yeux pleins de larmes. Si elle perdait l'âne, comment réagirait-elle?
Lumière, protège-le, je t'en prie.
Avant de laisser partir la veuve, Ninevé lui donna sa bourse. Ses pièces l'aideraient peut-être. Rand approcha.
Tu te soucies de mon peuple, et je t'en remercie.
Je me soucie de tous ceux qui souffrent.
Comme tu le fais depuis toujours. Sans oublier les gens dont tu t'occupes alors qu'ils n'en ont pas besoin.
Toi, par exemple?
Non. Moi, j'en ai toujours eu besoin. Il m'aurait même fallu plus.
Ninevé ne sut sur quel pied danser. Jamais elle n'aurait cru entendre ça de Rand Altor. Au fait, pourquoi portait-il toujours ce vieux manteau mité?
C'est ma faute,
dit-il en désignant la zone sinistrée.
Allons, ne sois pas idiot.
De temps en temps, tout le monde l'est plus ou moins. Je m'accuse à cause de mes retards. Nous différons la confrontation depuis trop longtemps. Que s'est-il passé ici? Les bâtiments sont tombés en poussière?
Oui, les maisons et les gens avec. Privés de substance, ils se désintégraient au moindre contact.
Le Ténébreux fera subir ce sort au monde entier,
dit Rand d'un ton très doux.
Il s'ébroue. Plus nous attendrons, accrochés au bord du gouffre par le bout des doigts, plus il détruira le peu qui nous reste. Il ne peut plus y avoir de retard.
Rand, si tu le libères, ça risque d'être encore pire.
Un court moment, oui.
Ouvrir la brèche ne le libérera pas immédiatement, mais ça lui conférera plus de puissance. Pourtant, il faut le faire. Vois la route qui nous attend comme l'escalade d'une haute muraille de pierre. Hélas, nous atermoyons avant de commencer l'ascension. Chaque pas inutile nous fatigue en vue du combat à venir. Notre ennemi, il faut l'affronter tant que nous sommes encore forts. C'est pour ça que je dois briser les sceaux.
Bien, je crois que tu parles d'or.
Nineveh n'en crut pas ses oreilles de s'entendre dire ça.
Vraiment, Nineveh ?
Demanda Rand, l'air soulagé.
Tu es sincère ?
Oui.
Alors, essaie de convaincre Egwen. Si elle peut, elle me mettra des bâtons dans les roues.
Rand, elle m'a rappelé à la tour. Je dois partir aujourd'hui.
Le dragon se rembrunit.
Je me doutais qu'elle ferait ça.
Assez maladroitement, Rand posa une main sur l'épaule de Nineveh.
Ne les laisse pas te détruire, car elles essaieront.
Me détruire ?
Ta passion est une part de toi-même. Bien que refusant de l'admettre, j'essayais d'être comme elle, glaciale, toujours impassible. Ça a failli me détruire. Pour certains, ça peut être une force, mais ce n'est pas le seul chemin vers la puissance. Tu devrais sans doute apprendre à te contrôler un peu plus, mais je t'aime tel que tu es. C'est la marque de ton authenticité. Je ne voudrais pas que tu deviennes une Aes Sedai comme les autres, avec un fichu masque sur le visage et aucun intérêt pour les sentiments des gens.
Une Aes Sedai doit être sereine.
Une Aes Sedai doit être ce qu'elle décide d'être,
assura Rand, son moignon toujours caché dans son dos.
Moiraine avait de l'empathie. Ça se voyait, même quand elle se montrait impassible. Les plus grandes Aes Sedai que j'ai connues étaient sans cesse critiquées par les autres, parce qu'elles ne se conformaient pas aux standards.
Nineveh acquiesça, puis fut très agacée de sa réaction. Elle tenait compte des conseils de Randaltor à présent. Mais il avait changé, vraiment. Une intensité sereine, des propos plus mesurés. Un homme dont on pouvait écouter les conseils sans se sentir regardé de haut. Comme son père, en fait. Bien sûr, l'ancienne sage-dame n'aurait admis ça devant aucun des deux hommes.
« Va retrouver Egwen, »
dit Rand en lâchant l'épaule de Nineveh.
« Mais dès que tu pourras, j'apprécierai beaucoup que tu reviennes auprès de moi. J'aurai encore besoin de tes conseils. Au minimum, je voudrais que tu sois là quand je partirai pour le mont Shagulgul. Avec le seul Saïdin, je ne vaincrai pas. Et si je dois utiliser Kalandor, il me faudra deux femmes de confiance pour former un cercle. L'autre, je ne l'ai pas encore choisi. Avienda, peut-être. Ou Elaine. Mais toi, c'est certain.
Je serai là, Rand. »
Jura Nineveh, submergé par une étrange fierté.
Tiens-toi tranquille encore un moment. Je ne te blesserai pas, c'est promis.
Le dragon arqua un sourcil, mais il ne broncha pas quand la Aes Sedai entreprit de le sonder. Si épuisée qu'elle soit, Nineveh ne pouvait pas le quitter avant de l'avoir guéri de sa folie. Soudain, ça lui semblait le mieux qu'elle pouvait faire pour lui. Et pour le monde. Elle explora Rand en restant loin de ses blessures au flanc, deux puits d'obscurité qui menaçaient d'absorber son énergie. L'objectif, c'était l'esprit du dragon. Là où se nichait, l'épouse de l'âne se raidit. Le faisceau noir était énorme. Des milliers d'épines s'enfonçaient dans le tissu cérébral. Mais sous ces intruses, on voyait un entrelac brillant de... eh bien, de quelque chose. Une lueur blanche, comme du pouvoir liquide. Une lumière qui donnait la vie et la modelait. Nineveh en resta ébahie. Cette blancheur recouvrait chacune des épines et s'enfonçait avec elle dans le tissu cérébral. Qu'est-ce que ça signifiait ? En tout cas, pas question de toucher à ça pour le moment. Il y avait tant de pointes. Avec une telle pression sur son cerveau, comment Rand pouvait-il seulement réfléchir ? Et quelle force générait cette blancheur ? Ce garçon, elle l'avait déjà guéri sans rien remarquer de semblable. Cela dit, elle n'avait pas repéré non plus le faisceau noir. Sans doute parce qu'elle n'était pas assez performante à l'époque. À regret, elle se retira.
« Désolé, mais je ne peux pas te guérir. »
Beaucoup de gens, toi comprise, se sont attaqués à ces blessures. Elle résiste à tout. Mais ces derniers temps, je n'y pense plus beaucoup.
Je ne pensais pas à ces plaies-là, Rand. La folie, je...
Tu peux guérir la folie ?
Je crois l'avoir fait pour Naef, oui.
Rand eut un grand sourire.
Toi, tu ne cesseras jamais de...
Nineveh.
Sais-tu que les guérisseurs les plus doués, lors de l'âge des légendes, étaient souvent impuissants face aux maladies de l'esprit ? La plupart pensaient impossible de guérir la folie avec le pouvoir de l'unique.
Avant de partir, je guérirai les autres, Narishma et Flynn au minimum. Tous les achamans doivent être plus ou moins touchés, mais je ne pourrai peut-être pas aller à la tour noire. En supposant que j'en ai envie.
Merci, dit Rand, le regard tourné vers le nord.
Non, tu ne dois pas aller à la tour noire. Je devrais y envoyer quelqu'un, mais il faudra être très prudent. Quelque chose est arrivé à ces hommes. Mais j'ai tant à faire.
Il secoua la tête puis baissa les yeux sur Nineveh.
C'est un gouffre que je ne peux pas franchir pour le moment. Parle de moi à Egwen, en bien. J'ai besoin de son aide.
Nineveh hocha la tête. Puis, en se sentant tout à fait idiote, elle enlaça Rand, avant de filer à la recherche de Narishma et de Flynn. Enlacer le dragon réincarné, elle devenait aussi stupide qu'Elaine. Au fond, un séjour à la tour lui remettrait peut-être les idées en place. Les nuages étaient revenus. Au sommet de la tour, sur le toit plat circulaire, Egwene s'appuyait au muret qui lui arrivait à la taille. Comme un nuage d'insectes ou une invasion de lichens, les nuages se refermaient au-dessus de Tarvalon. Très agréable, la visite du soleil avait été des plus brèves. Les infusions auraient de nouveau un goût de pourri. Les réserves de grains récemment découvertes s'épuisaient déjà et les derniers sacs grouillaient de charançons.
Le pays ne fait qu'un avec le dragon.
Egwene inspira à fond et contempla Tarvalon, sa ville. Derrière elle, Saïrin, Yukiri et Sehain attendaient patiemment. Trois des premières chasseuses d'âge noir au sein de la tour. Désormais, elle comptait parmi ses plus fidèles partisanes, et au nombre des plus utiles. Aujourd'hui, tout le monde s'attendait à ce que la jeune dirigeante favorise les anciennes rebelles, ou renégates, selon le point de vue qu'on adoptait. Être vue avec des sœurs qui n'avaient pas quitté la tour était une bonne stratégie.
« Qu'avez-vous découvert ?»
demanda Egwene. Saïrin secoua la tête et vint la rejoindre. Avec sa cicatrice sur la joue et ses tempes argentées, la sœur marron au teint cuivré ressemblait à un général vieillissant en route pour sa dernière campagne.
« Même après 3000 ans, certaines informations que tu as demandées restent sujettes à caution. Tout ce que tu me diras sera utile, ma fille. Tant qu'on ne dépend pas entièrement des faits, des connaissances incomplètes valent mieux qu'une totale ignorance. »
Saïrin fit la moue. Mais à l'évidence, elle avait reconnu la citation de Yassika Kelaetch, une antique érudite de l'âge marron.
Et vous deux ?
Demanda Egwene à Yukiri et à Sehain.
Nous cherchons,
répondit Yukiri.
Sehain a établi une liste de possibilités. Certaines semblent plus que raisonnables.
Egwene plissa le front. Demander des théories à une sœur blanche était toujours intéressant, mais rarement utile. Dédaignant le simple possible, ces femmes se penchaient volontiers sur les potentialités les plus fumeuses.
« Commençons par cette liste dans ce cas. »« Très bien, »
fit Sehain.
« En préambule, je tiens à dire qu'une rejetée détient sans nul doute des connaissances qui nous sont inaccessibles. Donc, il n'y a peut-être aucun moyen de déterminer comment elle a pu se jouer du bâton des serments. Par exemple, il existe peut-être un moyen de le neutraliser pendant un temps, à moins que certains mots permettent d'échapper à ses effets. » Ce bâton nous vient de l'âge des légendes. Même si nous l'utilisons depuis des millénaires, nous ne le comprenons pas vraiment, comme la plupart des autres terres Greal. Tout le monde sait ça, non ?
Sehain sortit une feuille de sa poche.
En tenant compte de ce postulat de base, j'ai trois théories sur la façon de tromper le bâton lorsqu'on prête les serments. Primo, il est possible que la rejetée dispose d'un autre bâton. On sait qu'il en existe plusieurs, et l'un peut éventuellement annuler les effets d'un autre. Si Messa Anna détient en secret un artefact, elle a pu prêter les trois serments en tenant le nôtre, puis utiliser le sien afin de se dégager de sa parole. Et ce, juste avant de jurer qu'elle n'est pas un suppôt des ténèbres. « Tiré par les cheveux, »
dit Egwene.
Comment aurait-elle pu faire ça sans qu'on le remarque ? Ça implique de tisser de l'esprit. J'ai pensé à cette objection. Ce qui ne surprendra personne. »
Fit Yukiri. Sehain la foudroya du regard, puis elle enchaîna.
Voilà pourquoi Messa Anna peut avoir eu besoin d'un second bâton des serments. Pour canaliser de l'esprit dedans, puis inverser le tissage, afin de se lier à l'artefact.
Improbable, marmonna Egwene.
Improbable ?
Répéta Saïrin.
Moi, je trouve ça ridicule. Yukiri, tu as utilisé le mot plausible au sujet de cette liste. C'est la possibilité la plus fumeuse,
intervint Sehain.
Mon secondo est moins tordu. Messa Anna peut avoir envoyé un sosie à elle placé sous le miroir des brumes. Une pauvre sœur, voire une novice ou une naturelle mal dégrossie, après lui avoir infligé une lourde coercition. Contrainte et forcée, cette femme a pu prêter les serments à sa place.
N'étant pas un suppôt, elle a juré en toute bonne foi qu'elle n'en était pas un. »
Et Gwen hocha pensivement la tête.
« Un plan pareil aurait demandé beaucoup de préparation. »« D'après ce que j'ai appris sur elle, »
dit Saïrin.
« Mais Saana est passée maîtresse dans l'art de tisser une toile. »
La mission de Saïrin était de collecter ce qu'on savait sur la rejetée. Toutes les sœurs avaient entendu les récits, et aucune n'ignorait les noms des rejetés, ainsi que leurs plus horribles forfaits. Mais Egwene se méfiait des récits. Si possible, elle voulait du concret.
« Tu as un tertio, si j'ai bien compris. »«
Oui, mère, »
répondit Sein.
« Nous savons que certains tissages influencent les sons. Par exemple, pour amplifier une voix quand on s'adresse à la foule, ou pour interdire à des oreilles indiscrètes d'écouter une conversation, ou, au contraire, pour entendre ce que disent des gens. Quand on sait l'utiliser, le miroir des brumes peut modifier la voix d'une personne. » Sans trop de peine, Doessine et moi avons adapté un tissage afin qu'il altère les mots que nous disons. En pratique, quand nous tenons des propos, les gens entendent des paroles entièrement différentes.
Des territoires dangereux,
souffla Saïrin.
Un tissage pareil peut servir à des fins maléfiques. Je ne peux pas l'utiliser pour mentir,
confia Saïrin.
Je sais, parce que j'ai essayé. Les serments y veillent. Sous ce tissage, je ne pourrais pas prononcer des mots que quelqu'un entendrait comme un mensonge. Même si ma phrase d'origine disait la vérité avant d'être altérée. Cela posé, ce tissage s'est révélé très simple à développer. Une fois noué et inversé, il flottait devant moi et modifiait mes propos dans le sens que je souhaitais. En théorie, avec cette technique, Messaana aurait pu tenir le bâton des serments et promettre tout ce qui lui passait par la tête. Par exemple, je jure que je mentirai chaque fois que j'en éprouverai le besoin. Et le bâton l'aurait lié à cette promesse. En revanche, le tissage modifiant ses propos, nous l'aurions entendu prêter le serment habituel.
Et Gwen serra la mâchoire. Tromper le bâton, avait-elle supposé, ne devait pas être un jeu d'enfant. Pourtant, un tissage de base pouvait suffire. Elle aurait dû s'en douter. Ne jamais utiliser un rocher quand un caillou ferait l'affaire. Une des phrases préférées de sa mère.
En procédant ainsi, la Jeanne Noire aurait pu infiltrer des suppôts à la tour depuis des années. Des traîtresses dans nos rangs.
Certes, mais c'est peu probable,
assura Saïrin.
Aucune sœur noire que nous avons capturée ne connaissait ce tissage. Sinon, elles auraient essayé d'y recourir quand nous les avons forcées à prêter à nouveau les serments. Si Messaana le maîtrise, elle l'a gardé pour elle. Afin qu'il reste efficace, il ne fallait pas que trop de femmes s'en servent. « Et maintenant, nous faisons quoi ?»
demanda Egwene.
« Puisqu'on est informé de l'existence de ce tissage, il doit être facile de trouver une parade. Mais je doute que les sœurs acceptent de prêter une troisième fois les serments. Et si c'était pour piéger une rejetée ?»
avança Yukiri.
Ébouriffer quelques plumes pour débusquer le canard caché dans le poulailler peut valoir la peine. Mais Saana ne se laisserait pas piéger,
dit Egwene.
De plus, nous ignorons si elle a recouru à une de ses méthodes. La logique de Sein laisse penser qu'il est possible, assez facilement, de tromper le bâton des serments. La technique choisie par Messaana importe moins que ce fait brut.
Sein consulta Yukiri du regard. Aucune des trois sœurs n'avait contesté la thèse d'Egwene au sujet de Messaana. Très probablement infiltrée à la Tour Blanche. Mais elles avaient eu des doutes. Au moins, désormais, elles savaient que le bâton des serments n'était pas infaillible.
« Je veux que vous continuiez, »
dit Egwene.
« Avec quelques autres, vous avez été très efficace quand il fallait capturer des sœurs noires en les faisant sortir de leur tanière. C'est en gros la même mission.
Mais immensément plus dangereuse.
« Nous ferons de notre mieux, mère, »
dit Yukiri.
« Mais débusquer une sœur au milieu de centaines ? Une créature parmi les plus maléfiques et les plus rusées qui ait jamais existé? Je crains qu'elle nous laisse très peu d'indices, et nos enquêtes sur les meurtres jusque-là n'ont pas abouti à grand-chose. Accrochez-vous quand même,
trancha Egwene.
Saïrin, qu'as-tu à me rapporter?
Des récits, des rumeurs et des murmures, mère.
La sœur fit la grimace.
Tu connais sans doute les histoires les plus célèbres au sujet de Messaana. Comment, par exemple, elle a pris la direction des écoles dans les pays conquis par le Ténébreux lors de la guerre du pouvoir. Pour autant que je le sache, ces légendes-là n'en sont pas. Alrom Marsim de Manéthérène en parle en détail dans ses Annales des Nuits Finales. De l'avis général, cette femme est une source des plus fiables. Elle a rédigé un rapport très complet sur une de ses écoles, et des fragments assez substantiels sont arrivés jusqu'à nous. Mais Saana voulait être une chercheuse. Mais on ne l'a pas accepté. Pourquoi? Hélas, les détails ne sont pas clairs. Toujours selon Alrom, elle a aussi pris la tête des Aes Sedai qui s'étaient ralliés aux ténèbres, les conduisant à la bataille. Là, j'ai du mal à croire notre chroniqueuse. Selon moi, le rôle de Messa Anna a été plutôt symbolique. »
Et Gwen hocha lentement la tête.
« Et sur sa personnalité, qu'as-tu appris? Qui est-elle vraiment ?»«
Pour la plupart des gens, mère, les rejetés sont des monstres de cauchemar, pas de véritables personnes. De plus, beaucoup de citations sont tronquées, et on a perdu des masses d'informations. Ce que j'ai déduit, parmi les rejetés, elle mérite le qualificatif de « réaliste ».
Quelqu'un qui ne regarde pas tout de haut, perché sur un trône, mais qui va sur le terrain et se salit les mains.
Dans ses aperçus sur la dislocation, Elandria Bondat souligne que Messa Anna, contrairement à Mogedienne et à Graendal, voulait s'occuper des choses directement. Elle n'a jamais été la plus douée des rejetés, ni la plus puissante, mais elle se montrait compétente. Selon Elandria, elle avait l'art de faire ce qui devait être fait.
Là où les autres auraient comploté, elle érigeait des défenses et entraînait de nouvelles recrues.
Saïrine hésita.
« Mère, elle ressemble à une chair d'Amirline. Une chair d'Amirline des ténèbres. Pas étonnant qu'elle se soit infiltrée ici. »
Marmonna Yukiri, très perturbée par toute cette histoire.
« La seule autre chose qui me semble pertinente, mère, »
reprit Saïrine,
« c'est une étrange citation de Lanis, une érudite de l'âge à bleu. Selon elle, à part des Mandred, personne n'arrivait à la cheville de Messa Anna en matière de pure colère. »
Et Gwen arqua un sourcil.
« Tous les rejetés sont pleins de haine, non ?»«
Je n'ai pas parlé de haine, mais de colère. Lanis estimait que Messa Anna était furieuse, contre elle-même, contre le monde, contre les autres rejetés, parce qu'elle n'était pas sur le devant de la scène, semblait-il. » Ce point peut la rendre très dangereuse.
Egwen acquiesça.
C'est une organisatrice, une administratrice qui déteste être reléguée dans cette position.
Était-ce pour ça qu'elle n'avait pas quitté la tour après qu'on eût démasqué les sœurs noires? Brûlait-elle d'envie d'accomplir un exploit afin de s'en vanter devant le ténébreux? Selon Vérine, tous les rejetés avaient un trait en commun, l'égoïsme.
Elle voulait offrir à son maître une tour blanche dévastée, mais ça n'a pas réussi. Très probablement, elle a aussi participé à la tentative d'enlèvement de Rand. Un autre fiasco. Et les femmes envoyées pour détruire la tour noire?
Pour effacer de tels échecs, Messa Anna aurait besoin d'un succès retentissant. Tuer la chair d'Amirline, par exemple, puisque ça risquait de diviser de nouveau la tour. Quand Egwene avait parlé de s'utiliser elle-même comme un appât, Gawain en avait fait une maladie. Allait-elle oser jouer à ce jeu-là? Agrippant le muret, et Gwen contempla la ville dont le destin dépendait d'elle. Et au-delà, le monde qui avait besoin de son aide. Il fallait agir et éliminer Messa Anna de l'équation. Si Saïrin ne se trompait pas, la rejetée chercherait un affrontement direct, parce qu'elle n'était pas du genre à frapper caché dans les ombres. Dans ce cas, tout ce qu'Egwen avait à faire, c'était lui proposer une occasion trop tentante pour qu'elle y résiste.
« Venez avec moi !»
dit-elle à ses compagnes en se dirigeant vers la rampe qui la ramènerait dans la tour.
« J'ai des préparatifs à faire. »